Seigneur, c'est vrai que nous sommes devant toi. Alors nous voulons te dire qu'effectivement, nous voulons t'ouvrir nos cœurs. Et c'est vrai que ta voix, elle est tellement douce, elle est tellement juste, elle est tellement bonne. Seigneur, fais-nous entendre ta voix ce matin. C'est notre prière. Amen. Alors c'est la Madeleine aujourd'hui. Bon. Il y en a beaucoup ici qui ne sont pas jumés, toi. D'ailleurs, ici, je ne suis entouré que de gens qui ne sont pas de jumés. Ils m'entourent là, comme ça. Ça me met mal à l'aise. Pour moi, c'est important d'avoir des gens du coin. Heureusement que Christiane est là. Et bon, voilà. Alors, mais ce n'est pas en lien avec la Madeleine. Mais aujourd'hui, je vais être très, très court. C'est important d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Il y a des dimanches pour parler beaucoup, et il y a des dimanches pour être court. Et je pense que je suis suffisamment long pendant toute l'année pour pouvoir être court un dimanche. Je voudrais vous inviter à une lecture dans Ésaïe chapitre 40. Et en réalité, ce texte se pose vraiment dans la continuité de ce que nous avons vu au sujet de Job. Pour ceux qui se souviennent, ceux qui ont suivi les quelques passages que nous avons eus au sujet de Job, vous allez voir que les premières paroles de ce texte ressemblent très fort à ce qu'on a lu dans Job. Pourtant, on n'est plus dans Job. On est dans Ésaïe chapitre 40. Mais là aussi, encore une fois, on a des mêmes paysages, des mêmes idées qui nous sont transmises. Et pendant que nous avons été dans Job, nous les avons vues sous un certain aspect. Et aujourd'hui, nous allons les voir sous un autre aspect. Ésaïe chapitre 40, et nous allons par contre faire une longue lecture, mais une lecture où je vous inviterai à garder vos Bibles devant vous pour qu'on puisse effectivement avancer de verset en verset. Alors, avant de commencer la lecture, je vous invite à vous souvenir notamment de ce qu'on a lu dans Job chapitre 28, le moment où Dieu s'adresse à Job. Voilà que Job a parlé beaucoup, que ses amis ont beaucoup parlé, ils ont dit plein de choses, et à un moment donné, Dieu prend la parole. Et Dieu va, si vous vous souvenez, poser des questions à Job. Il va lui dire, mais finalement, Job, où étais-tu quand je créais le ciel et la terre? Où étais-tu quand les choses étaient comme ça? Où étais-tu? Est-ce que tu as fondé la terre? Est-ce que tu as étendu les nuages? Est-ce que tu as fait les océans, Job? Vous vous souvenez de ça? Alors, Ésaïe, chapitre 40, à partir du verset 12. Où il est dit, qui a mesuré l'océan dans le creux de sa main? Qui a mesuré l'océan dans le creux de sa main? Qui a toisé le ciel avec la largeur de sa main? Qui a tassé dans un boisseau la poussière du sol? Qui a bien pu peser les montagnes sur la bascule? Et les coteaux sur la balance, qui donc a mesuré l'esprit de l'Éternel? Qui a été son conseiller et son instructeur? De qui Dieu a-t-il pris conseil pour se faire éclairer? À qui Dieu a-t-il demandé conseil avant de faire le ciel et la terre? Qui est le conseiller de Dieu? Qui lui a enseigné la bonne voie? Qui a été donné des cours à Dieu pour lui expliquer comment les choses doivent fonctionner, comment le monde doit aller? Qui lui a transmis le savoir et lui a fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici, les nations sont pour lui, pour Dieu, comme la goutte d'eau tombant d'un seau ou comme un grain de sable sur le plateau de la balance. Voici les îles et les régions côtières, il les soulève comme de la poussière. Les cèdres du Liban ne suffiraient pas à nourrir le feu de son autel. Tous les animaux qui y vivent ne seraient pas assez nombreux pour l'Holocauste. Toutes les nations, à ses yeux, sont comme rien. Elles ont pour lui la valeur du néant et du vide. À qui comparerez-vous Dieu? Comment le représenterez-vous? Une idole moulée, un artisan la fond, l'orfèvre la recouvre d'un fin plaquage d'or et pour l'orner, il coule des chaînettes d'argent. Celui qui est trop pauvre pour une telle offrande choisit du bois qui ne pourrisse pas, puis il s'en va chercher un artisan habile pour faire une statue qui ne vacille pas. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas entendu? Cela ne vous a-t-il pas été déclaré dès le commencement? N'avez-vous pas compris la fondation du monde? Or, pour celui qui siège sur son trône au-dessus du cercle de la terre, ses habitants sont pareils à des sauterelles. Il a tendu le ciel comme une toile et il a déployé comme une tente pour l'habiter. Il réduit à néant les princes de la terre et fait évanouir les dirigeants du monde. À peine ont-ils été plantés, à peine ont-ils été semés, à peine ont-ils été poussés, ont-ils poussé quelques racines que l'Éternel souffle sur eux et les voilà qui sèchent et qui sont emportés comme un fétu de paille par la tempête. À qui voudriez-vous me comparer? Qui serait mon égal? Demande le Dieu saint. Levez bien les yeux et regardez. Qui a créé ces astres? C'est celui qui fait marcher leur armée en bon ordre, qui les convoque tous, les nommant par leur nom. Et grâce à sa puissance et à sa surforce, pas un ne fait défaut. Pourquoi donc, ô Jacob, parlerais-tu ainsi? Et pourquoi dirais-tu, ô Israël, mon sort échappe à l'Éternel, et mon Dieu ne fait rien pour défendre mon droit? Ne le sais-tu donc pas? Ne l'as-tu pas appris? Que l'Éternel est le Dieu de toute éternité. C'est lui qui a créé les confins de la terre. Il ne se lasse pas. Il ne s'épuise pas. Et son intelligence ne peut être sondée. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui est là. Les jeunes gens se lassent et ils s'épuisent. Et même de robustes gaillards tombent. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles, sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. Amen. C'est une longue lecture, mais ça vaut la peine. Le texte commence donc par des questions qui sont des questions qui n'ont pas de réponse, évidemment, comme on pourrait dire des questions rhétoriques. Prenons simplement la première, qui a mesuré l'océan dans le creux de sa main? Ce n'est pas une question, c'est simplement un constat que personne, aucun être humain n'a jamais mesuré la grandeur de l'océan. Aucun être humain n'a jamais pu contenir ne serait-ce qu'un kilomètre d'eau ou un kilomètre de nature dans ses mains. Aucun être humain ne peut, par son intelligence, mesurer quoi que ce soit de ce que Dieu a fait. Une autre question, qui donc a mesuré l'esprit de l'Éternel? Personne. Ce sont des questions rhétoriques qui sont simplement des questions qui sont là pour nous montrer, encore une fois, notre petitesse, notre infinité, notre petite place finalement dans l'humanité. Et c'est vrai que dans notre vie de tous les jours, souvent, c'est bien normal, nous nous donnons beaucoup d'importance. Les humains se donnent beaucoup d'importance. Nous croyons que nous sommes grand-chose, nous croyons que nous sommes beaucoup de choses. Mais devant le Dieu qui a fait toutes choses, chacun d'entre nous, même si nous avons beaucoup de valeur devant lui, nous ne sommes rien et nous ne maîtrisons pas grand-chose. À côté de cette grandeur de Dieu, il y a la petitesse des nations, il y a la petitesse des humains que nous sommes. De qui Dieu a-t-il pris conseil pour se faire éclairer? Qui lui a enseigné la bonne voie? Qui a enseigné à Dieu comment créer le ciel et la terre? Qui a expliqué à Dieu comment il fallait mettre le soleil et la lune? Qui a expliqué à Dieu comment est-ce qu'il fallait faire pour mettre un cubitus, un radius? Qui a expliqué à Dieu comment faire pour faire un cœur qui fonctionne bien, avec des artères, avec des veines, avec le sang qui revient? Qui a expliqué tout ça à Dieu? Qui, nous dit le texte, a fait tenir la terre sur ses fondations? Qui a fait en sorte que les étoiles soient là où elles sont? Qui a fait en sorte que les astres ne se percutent pas? Jusqu'ici, la Terre n'a pas encore percuté le Soleil, ni la Lune. Qui a fait ces choses? Le texte nous révèle la grandeur infinie de Dieu, la grandeur infinie de son intelligence, de sa sagesse, de sa grâce, de la puissance éternelle et infinie de la sagesse de Dieu. Et si vous vous souvenez, lorsque nous avons lu les textes de Job, nous nous étions arrêtés sur ce que ça doit produire en nous en termes de respect vis-à-vis de Dieu. On s'était arrêté sur le fait que quand on considère la grandeur de Dieu, quand on considère l'étendue de son intelligence, tous nous sommes appelés à nous présenter devant lui comme ce que nous sommes, c'est-à-dire de simples humains, rien du tout, en respectant son règne, en respectant sa sagesse, en respectant son autorité. Et ce matin, je voudrais plus qu'on s'arrête sur à quel point cette grandeur de Dieu peut être une ressource pour nous. Cette grandeur, cette infinité de l'intelligence de Dieu, de sa sagesse, la grandeur de sa force, la grandeur de sa puissance qui ne finit jamais. Ce texte nous enseigne qu'elle doit être notre réservoir à nous. Notre réservoir à nous, c'est ce Dieu, justement, dont la force ne finit jamais, dont l'intelligence ne finit jamais, dont la grâce, dont la miséricorde ne finit jamais. Vous savez bien que dans les relations, il y a toujours des moments où on va essayer de jauger devant à qui on a affaire. Ça, tout le monde fait ça. Quand on travaille ou dans la rue, quand quelqu'un nous aborde, on va d'abord essayer de jauger, de dire à qui j'ai affaire, est-ce que c'est quelqu'un de normal, est-ce que c'est quelqu'un de correct, ou est-ce que c'est quelqu'un de... Ou on peut dire, non, ce type-là, il est bizarre. Il est bizarre, la façon dont il parle, il est spécial, ne t'approche pas trop. Au contraire, on va dire, oh, ce monsieur-là, il m'a l'air bien sérieux, il m'a l'air intelligent. Donc, on va toujours essayer de jauger à peu près à qui on a affaire. Et très souvent, nous, comme chrétiens, une des premières faiblesses que nous développons dans notre vie chrétienne, c'est que nous nous présentons devant Dieu sans nous rendre compte à qui nous avons affaire. Alors, la première fois, on l'avait vu dans le sens du respect. On s'approche parfois devant Dieu comme si... voilà. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on se rende compte, quand on s'approche devant Dieu, de toute la richesse qu'il a pour nous, de toute la richesse de grâce qu'il a à notre égard. Et c'est ce qui est présenté à partir du verset 27. « Pourquoi donc, ô Jacob, parlerais-tu ainsi? Et pourquoi dirais-tu, ô Israël, mon sort échappe à l'Éternel et mon Dieu ne fait rien pour défendre mon droit ?» C'est la parole de ceux qui se disent « Finalement, Dieu ne fait rien pour moi. » Finalement, Dieu n'intervient pas dans ma vie. Finalement, Dieu ne manifeste rien de ce qu'on dit. On parle de lui, on parle de sa grandeur, on parle de sa richesse, on parle de sa grâce. Mais en réalité, il ne fait absolument rien pour moi. La phrase qui serait dite, c'est « Mon sort échappe à l'Éternel ». Parfois, on a cette impression que ce qui nous arrive échappe à l'Éternel. L'impression qu'il est dépassé par ce qui arrive, que Dieu tombe des nues devant ce qui se passe devant nous. Et ça peut être tellement agressif qu'on se dit, mais en fait, soit il ne s'occupe pas de moi, soit il ne sait pas quoi faire, soit il est entièrement dépassé par la situation. Pourquoi dirais-tu ça, toi qui es enfant de Dieu? Toi qui es l'enfant du Dieu tout-puissant, du Dieu éternel. Ne le sais-tu donc pas et ne l'as-tu pas appris que l'Éternel est le Dieu de toute éternité? Le Dieu de toute éternité. C'est lui qui a créé les confins de la terre, il ne se lasse pas et il ne s'épuise pas. Lorsque nous arrivons aux limites de nos forces, aux limites de nos capacités humaines, aux limites de notre joie parfois, aux limites de notre espérance, aux limites de ce que nous pouvons supporter, de ce que nous pouvons affronter, Dieu, lui, n'est toujours pas à ses limites. Il ne se lasse pas, il ne s'épuise pas. Et la force qu'il a, il nous la communique sans arrêt, sans limite. Lui dont la force est infinie, il nous communique sa force de façon infinie. Lui dont la joie, la grâce sont infinies, il nous les communique de façon totalement infinie. Parce qu'il ne se lasse pas, il ne se fatigue pas. Il donne de la force à celui qui est fatigué, à celui qui est épuisé, à celui qui n'en peut plus, à celui qui a envie de tout lâcher, à celui qui a envie de tout laisser tomber, il donne de la force, il communique de la force. Dans les limites humaines que nous avons, il se présente comme le Dieu qui n'a pas de limites et qui nous dit, tu sais, peut-être que si ton réservoir est complètement fini, il n'y a peut-être plus rien dans ton réservoir de force, il n'y a peut-être plus rien dans ton réservoir de joie, mais moi j'ai un réservoir illimité, j'ai un réservoir infini. Et peut-être même que ton réservoir est troué et que finalement tu dis, mais tout ce qui arrive, ça s'en va encore, ça disparaît. Eh bien, moi, j'ai encore de la force à te donner. Parce que je suis le Dieu qui ne se fatigue pas. Je suis le Dieu qui n'arrive pas au bout de sa force, au bout de ses capacités. Je donne de la force à celui qui est fatigué. Je donne de la joie à celui qui n'en a pas. Il augmente la vigueur de celui qui est fatigué. Il dit au verset 30, et c'est une comparaison, « Les jeunes gens se lassent et ils s'épuisent. » Et même de robustes gaillards tombent. C'est une façon de parler du fait que même ceux qui sont les plus vigoureux, les jeunes, qui sont vigoureux en force, qui sont vigoureux en capacité physique, vigoureux en endurance, même eux se lassent, même eux se fatiguent, même eux, mais même les sportifs les plus terribles, à un moment donné, ils se fatiguent, on l'a bien vu, hein, comme les Italiens se fatiguent vite et qu'ils n'arrivent à rien. Mais indépendamment de ça, les jeunes gens, eux, se fatiguent, ils se lassent, ils arrivent et le texte dit, et même de robustes gaillards, même les gens les plus forts, les plus puissants, les plus robustes, ils arrivent aux limites de leur force. Et c'est là qu'on veut arriver, au verset 31. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles. Sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. Ceux qui placent leur confiance en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles. Sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant et ils ne s'épuisent pas. L'éternité de Dieu ou la grandeur de Dieu n'est pas là pour nous faire peur ou pour nous mettre comme ça devant Dieu, les mains devant notre visage, pour dire « Seigneur, tu es trop grand, tu es trop puissant ». Elle est là aussi pour nous dire, Dieu nous dit « Je suis ta ressource, je suis ta ressource. Si tu places ta confiance en moi, si tu places ta confiance en moi, je remplirai tes réservoirs, je te renouvellerai tes forces ». Souvent, on place notre confiance dans les vacances pour renouveler nos forces, mais certains d'entre vous, vous savez certainement que parfois, la fatigue mentale ou la fatigue morale que l'on a ne peut pas être remise en route par des vacances. Parfois, on peut aller en vacances et être encore dans cette fatigue morale, mentale. Vous avez déjà certainement tous expérimenté les moments où vous êtes fatigué et vous ne savez pas récupérer, vous ne savez pas vous reposer. Ce n'est pas que vous n'avez pas de temps pour dormir, ce n'est pas que vous n'avez pas de temps pour vous reposer, mais quel que soit le temps que vous passez, la fatigue ne s'en va pas. Quel que soit comment vous ajoutez, la fatigue ne s'en va pas. Parce qu'il y a une fatigue interne qui ne peut être remplie que par notre Dieu, que pour ceux qui placent entièrement leur confiance en Dieu. Eh bien, ceux qui placent leur confiance en Dieu, ils renouvellent leur force. Parce qu'ils sont en lien avec le Dieu dont les forces sont absolument inépuisés. Le Dieu d'éternité qui règne et qui est le Dieu qui a des greniers pour nous. Des greniers pour nous. Alors je ne sais pas, aujourd'hui, ce matin, avec quelle carence nous sommes arrivés. On peut être en carence de force. Justement, c'est l'exemple que le texte donne, mais il n'y a pas que la carence de force. On peut être en carence aussi d'espérance. En carence d'espérance, c'est-à-dire que nous sommes là, placés dans notre vie, regardant devant, mais nous n'avons pas de capacité de voir où nous allons. Il n'y a pas pour nous de quelque chose qui se dessine au bout du couloir. Alors, il y a l'espérance chrétienne, mais il n'y a pas que l'espérance chrétienne. L'espérance, c'est aussi quand quelqu'un va aller acheter sa nouvelle voiture, il est dans l'espérance d'acheter sa nouvelle voiture. Mais dans notre vie, indépendamment de l'espérance chrétienne, l'espérance de la vie éternelle, il peut arriver des moments où nous sommes en panne d'espérance, dans notre couple, dans notre famille, dans notre travail, où on dit « mais je ne sais pas où je vais aller, moi, je ne sais pas où est-ce que je suis en train de me diriger, dans notre santé, on ne sait pas de quoi demain sera fait. On n'a rien pour nous donner envie de placer un pas devant l'autre pour aller de l'avant, parce qu'on n'a plus d'espérance. On peut être en panne ou en carence de joie. Peut-être que c'est le cas de quelqu'un aujourd'hui qui vient en disant, pas grand-chose qui me donne de la joie, moi. Il n'y a pas grand-chose qui me donne envie de sourire. Moi, j'aime bien les gens qui sourient. Mais parfois, il n'y a pas de raison de sourire. Pensez à toutes ces personnes qui ont perdu leur maison les jours passés. Ils n'ont pas envie de sourire, ça ne les fait pas rire. Hein. Moi, au début des inondations, je rigolais parce que je ne me rendais pas compte. Je ne savais pas qu'il y avait des gens qui étaient en train de mourir. Ici, il pleut. Ah, c'est marrant. Mais ils ne rigolent pas. On peut être en carence de joie, on peut être en carence de force, on peut être en carence de foi. On peut être en carence de foi. La carence de foi, c'est lorsqu'on en arrive finalement, comme cela est écrit au verset 27, à douter de la présence de Dieu. On doute que Dieu soit réellement à l'œuvre dans nos vies. On doute qu'il soit là, ou on doute aussi qu'il s'occupe de nous. Comme quelqu'un disait il y a quelques jours, je crois en Dieu, tu sais. Je crois hein, que Dieu nous aime. Mais je crois, et ce que je me rends compte, c'est que Dieu s'occupe de tout le monde sauf de moi. Quelqu'un disait ça. Ça nous arrive dans notre vie chrétienne, hein, ça. On dit non, mais je sais que Dieu est bon pour les autres. Moi, je ne vois rien dans ma vie. Je ne vois pas que Dieu intervient. Je ne vois pas que Dieu fait des grandes choses. On peut être en carence de foi sur ce que Dieu fait. On peut être en carence de foi sur comment Dieu agit. On peut être en carence de foi sur de quoi demain est fait. On peut être aussi, chacun d'entre nous, en carence d'une autre foi, c'est la foi dans la parole de Dieu, la foi dans ce que Dieu dit. Pour en arriver à dire, mais finalement, et comme certains le diront dans la Bible, en fait, il n'y a pas d'intérêt à suivre Dieu. Il n'y a pas d'intérêt à obéir aux commandements de Dieu, il n'y a pas d'intérêt à croire en la parole de Dieu, parce que je ne suis pas finalement sûr que tout ce qu'on raconte, c'est la vérité. Je ne suis pas forcément sûr que quand on nous dit que l'obéissance, par exemple, a des fruits, la Bible nous enseigne ça, que lorsqu'on obéit à Dieu, ben on a des fruits dans notre vie. On peut être en carence de temps et tant de choses, on peut être en carence de paix. Quand notre cœur ne peut plus s'apaiser. Est-ce que vous savez c'est ce qu'on appelle l'expression « avoir un cœur assis » ? Alors, on peut avoir un cœur agité. Donc, le cœur agité, c'est le cœur troublé. Le cœur qui a peur, le cœur qui s'inquiète, le cœur qui est angoissé. Notre cœur qui ne sait pas trop de quoi demain est fait. Et puis, il y a avoir un cœur assis. Avoir un cœur en paix. Un cœur à sa place. Un cœur tranquille. Mais parfois, cette paix, nous ne savons pas la trouver. Nous ne savons pas la trouver à cause des inquiétudes qu'il y a autour de nous. Nous ne savons pas la trouver à cause parfois de l'environnement qui est autour de nous. Nous vivons des situations de travail, de famille, des situations de couple, des situations de relations, des situations d'église parfois, dans lesquelles nous ne savons pas trouver la paix. Parce que nous sommes dans un contexte de conflit. Dans un contexte d'affrontement, dans un contexte où finalement on n'arrive plus à s'entendre avec les uns et les autres. Et on n'arrive plus à avoir un cœur qui s'assied, un cœur tranquille. On a un cœur en agitation. Tant et tant de choses qui peuvent nous manquer. Et aujourd'hui peut-être que tu réfléchis et que tu te dis, tiens mais mon cœur a quand même une carence moi. Je me rends compte qu'il me manque de joie, il me manque de paix. Parfois aussi, on peut être en carence d'amour, tout simplement. On n'a plus assez pour aimer les autres parce que les autres nous énervent, nous fatiguent et qu'on ne sent plus cet amour de Dieu répandu dans nos cœurs qui nous aide à aimer les autres. Tant et tant de carences que nous pouvons avoir. Eh bien, dans ces carences, Dieu se présente à nous comme le Dieu qui ne se lasse pas, comme le Dieu qui ne s'épuise pas, comme le Dieu qui peut remplir nos réservoirs. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui est là. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il donne de la paix à celui qui n'en a pas. Il donne de la joie à celui qui n'en a pas. Il donne de quoi avancer à ceux qui n'en ont pas. Alors je voudrais que nous puissions passer ce matin un temps dans la prière. Pour dire à Dieu, je voudrais que chacun puisse prendre un instant. Alors, ceux qui n'ont rien comme carence, c'est très bien, gloire à Dieu. On bénit Dieu pour cela. On bénit Dieu pour cela. Mais puis, peut-être que d'autres ici sont là avec une carence. Alors, il n'y a que toi qui la connais. Peut-être tu es en carence de paix, de joie, d'espérance, de relation, quel que soit le manque que tu ressens dans ton cœur. Et je voudrais que dans nos cœurs, on puisse prier Dieu et qu'on puisse lui dire, Seigneur, je veux me rendre compte de qui tu es. Je ne veux pas mépriser la grandeur de ta puissance et je veux me rendre compte que tu es le Dieu qui peut remplir tout ça. Toi qui es éternel, toi qui ne t'épuises pas, toi qui as créé toute chose, tu n'es pas dépassé par mes carences. Tu n'es pas dépassé par ce qui me manque. Tu n'es pas dépassé par mes questions. Tu n'es pas dépassé par mes situations. Tu n'es pas dépassé parce que tu es Dieu. Rappelez-vous qu'on avait dit, respectons-le parce qu'il est Dieu. Mais aujourd'hui, nous voulons dire, faisons-lui confiance parce qu'il est Dieu. Faisons-lui confiance parce qu'il est Dieu. Prions ensemble pendant quelques instants. Et je voudrais peut-être qu'on puisse formuler quelque chose dans nos cœurs. Alors si vous n'avez rien comme carence, ben peut-être que c'est le jour pour dire merci au Seigneur pour toutes les bonnes choses qu'il y a dans votre vie et pour bénir Dieu. Et si pas, s'il y a quelque chose qui vous a interpellé, si vous sentez que vous manquez de quelque chose et que vous avez besoin que le Seigneur vous remplisse, qu'il vous remplisse de quelque chose, que vous puissiez simplement formuler dans votre cœur cette prière en disant, Seigneur, voilà la carence que j'ai moi ce matin. Et je crois en ta puissance, agis. Seigneur, nous nous présentons devant toi dans la conscience effectivement de qui tu es. Seigneur, tu connais chacun de nos cœurs. Tu sais aussi, Seigneur, de quoi nos cœurs sont faits. Et tu vois tout ce qu'il y a de positif dans nos cœurs, la joie, la tranquillité, les perspectives heureuses que nous avons, perspectives de vacances, perspectives de rencontres, toutes les bonnes choses, tu les vois, Seigneur. Et nous te disons merci pour les bonnes choses que tu donnes dans nos vies et les bonnes choses qu'il y a dans nos cœurs. Mais Seigneur, tu vois aussi les choses plus difficiles qu'il y a dans nos cœurs. Tu vois aussi, Seigneur, tout ce qui est compliqué pour nous parfois d'avouer. Notre manque de foi, notre manque de joie, notre manque de paix, notre manque d'espérance, notre manque d'amour, notre manque, Seigneur, de relations, notre solitude, quels que soient, Seigneur, les manques dont nous sommes affectés ce jour, les carences que nous avons. Nous voulons nous présenter devant toi, Seigneur, en te demandant de nous remplir. Toi, le Dieu qui ne te fatigue pas, que tu nous donnes ta force. Toi, le Dieu qui ne se lasse pas, qui n'est jamais fatigué, qui n'a jamais envie de jeter l'éponge. Que toi, tu nous donnes ta force, que tu nous donnes ta joie, ta paix, ton espérance. Que tu puisses nous remplir de ce qui vient de toi. Seigneur, maintenant, c'est notre demande devant toi. Et nous te l'adressons, Seigneur, dans la confiance de qui tu es. Comme il est écrit, « Mais ceux qui placent leur confiance en l'Éternel renouvellent leur force. » Seigneur, c'est notre prière, alors que nous plaçons notre confiance en toi, que tu nous renouvelles ce jour, que tu nous renouvelles moralement, que tu nous renouvelles physiquement, que tu nous renouvelles spirituellement, que tu nous renouvelles émotionnellement, pour que nous puissions continuer la route avec toi dans la joie de ta présence. C'est notre prière, au nom de Jésus. Amen.